Livre 4, Trois problèmes d'amour. Chapitre 1er. Ce fut par une matinée de mai qu'on enterra Pierre Featherstone. Dans le voisinage prosaïque de Middlemarch, le mois de mai n'était pas toujours chaud et ensoleillé. Un vent froid arrachait les fleurs à peine ouvertes des jardins environnants et les emportait jusque sur les tertres verts du cimetière de Lowick. Des nuages rapides couraient au ciel, ne permettant que par éclaircie à un rayon de soleil d'éclairer l'objet beau ou laid que venait frapper soudain de sa pluie d'or une lueur fugitive. Le spectacle du cimetière était des plus variés. Toute une petite foule de province s'y était réunie pour voir la cérémonie. La nouvelle s'était répandue qu'il allait y avoir un grand enterrement. Le vieux gentleman en avait réglé toutes les dispositions par écrit, voulant que ses funérailles surpassassent en éclat celle des classes les plus élevées de la société. Il avait voulu qu'on y conviât des gens qui fussent beaucoup plus volontiers restés chez eux. Il avait même désiré que les femmes de sa famille le suivissent jusqu'à sa tombe. Et la pauvre sœur Marthe avait fait tout exprès un voyage difficile depuis les Chalky Flats. C'eût été une joie pour elle et pour Jane de penser que, si ce frère n'avait nullement tenu à les voir de son vivant, il s'était pourtant réjoui en écrivant son testament de la perspective de leur présence à ses obsèques. Malheureusement, il y avait quelque chose d'équivoque dans le fait que le même désir s'étendait en même temps à Mrs. Vincey. Celle-ci avait fait des acquisitions de crêpes magnifiques, impliquant les espérances les plus présomptueuses, et rehaussées par un éclat et une fraîcheur de teint qui faisaient voir clairement qu'elle n'était pas du sang des Featherstone, mais qu'elle appartenait à cette classe de parents éminemment discutables, appelée la famille de la femme. Cependant, les trois voitures de deuil se remplirent conformément aux ordres écrits du défunt. Les porteurs du drap mortuaire étaient à cheval, couverts des plus riches galons. Même les aides-porteurs de la bière avaient les écharpes de deuil de la plus belle qualité. La procession noire, une fois descendue de cheval, parut plus nombreuse encore dans les trois cimetières. Les graves figures humaines et les draperies noires flottant au vent semblaient faire partie d'un monde étrangement incompatible avec les fleurs épanouies, légèrement penchées sur leurs tiges et les pâquerettes étincelantes sous les rayons du soleil. C'était M. Cadwallader qui menait le cortège, toujours suivant le vœu de Pierre Featherstone. Dédaignant les vicaires qu'il traitait toujours en subalternes, il avait décidé d'être enterré par un clergyman bénéficié. M. Casaubon était hors de cause, non seulement parce qu'il déclinait toute fonction de ce genre, mais parce que Featherstone avait pour lui une aversion particulière. Il voyait en lui le recteur de sa paroisse, à qui la dîme donnait des droits sur ses propres domaines, sans compter les sermons du matin que le vieillard avait été si longtemps obligé d'écouter d'un bout à l'autre, assis dans sa stalle, sans pouvoir dormir et enrageant en dedans. Mais avec M. Cadwallader, il avait entretenu des relations toutes différentes. La rivière poissonneuse qui traversait les terres de M. Casaubon passait aussi par celle de Featherstone, de façon que M. Cadwallader avait été pour lui le recteur qui demande une faveur et non le recteur qui vous prêche. De plus, il faisait partie de la haute gentry. Il vivait à 4 000 de Lowick, siégeant au même étage céleste que le shérif du comté et autres dignitaires regardés comme nécessaires au système du monde. Il y aurait une certaine satisfaction à être enterré par M. Cadwallader, dont on aurait là encore, à la rigueur, une belle occasion d'écorcher le nom. C'est grâce à cette distinction conférée au recteur de Tipton et de Freshitt que Mrs. Cadwallader se trouve à faire partie d'un groupe qui, d'une des fenêtres supérieures du manoir de Lowick, regardait l'enterrement du vieux Featherstone. Elle n'aimait guère à venir dans cette maison, mais, comme elle le disait, cela l'amusait de voir une collection d'animaux étranges comme celle qui se trouverait réunie à cet enterrement, et elle persuada à Sir James et à la jeune Lady Chatham de les mener en voiture à Lowick, le recteur et elle, de façon à faire de cette visite une espèce de partie de plaisir. « J'irai avec vous n'importe où, Mrs. Cadwallader, » avait dit Celia, « mais je n'aime pas les enterrements. » « Oh, ma chère, quand on a un clergyman dans sa famille, il faut savoir réformer ses goûts en conséquence. J'ai fait cela de très bonne heure. Quand j'ai épousé Humphrey, j'ai pris le parti d'aimer les sermons, et j'ai commencé par en aimer passablement la fin. Bientôt ce goût s'est étendu au milieu, puis au commencement. Il fallait bien passer par là pour arriver à la fin. La fenêtre d'où l'on pouvait le mieux voir la cérémonie appartenait à la chambre qu'avait occupée Casaubon, aussi longtemps que le travail lui avait été interdit. Maintenant, il avait à peu près repris son genre de vie habituel, en dépit des avertissements et des prescriptions. Aussi, après avoir courtoisement salué Mrs. Cadwallader, s'était-il retiré dans sa bibliothèque pour y ruminer sur une foule d'erreurs commises par les savants sur Cush et Mizraim. Sans ses visites, Dorothée serait sans doute restée enfermée également dans la bibliothèque, et n'aurait rien vu de l'enterrement. Ce spectacle, si éloigné qu'il sembla du caractère ordinaire de sa vie, lui revint toujours à l'esprit, dans la suite, au moindre réveil de certains points sensibles de sa mémoire, par un effet analogue à celui qui rattachait intimement la vision de Saint-Pierre de Rome à ses premiers accès de désespoir. « J'ai assez regardé, » dit Célia, quand le cortège fut entré à l'église. Et elle se recula un peu derrière l'épaule de son mari, dont en cachette elle pouvait, de la joue, effleurer doucement l'habit. « Mais je croirais volontiers que cela plaît à Dodo. Elle aime les choses mélancoliques et les gens laids. » « J'aime à connaître les gens au milieu desquels je vis, » répliqua Dorothée, qui avait suivi la cérémonie avec l'intérêt d'un moine faisant une tournée de vacances. « Il me semble que tout ce que nous savons de nos voisins, c'est qu'ils vivent dans des chaumières. On se demande toujours quelle sorte de vie mènent les autres et comment ils prennent les choses. Je suis vraiment bien obligé à Mrs. Cadwallader d'être venue me chercher dans la bibliothèque pour me faire voir cela. « C'est très aimable à vous de m'en être obligé, » dit Mrs. Cadwallader. « Vos riches fermiers de Lowick sont aussi curieux à regarder que des buffles ou des bisons, et je suis sûr que vous n'en voyez pas la moitié à l'église. Ils sont tout différents des fermiers de votre oncle ou de ceux de Sir James, de vrais monstres, des fermiers sans maître. On ne sait comment les classer. » « La plupart des gens qui font partie de ce cortège ne sont pas de Lowick, » dit Sir James. « Ce sont, je suppose, des légataires de Middlemarch ou de plus loin. » Lovegood me disait que le vieux bonhomme avait laissé de grands biens et beaucoup d'argent. Concevez-vous cela, quand il y a tant de cadets de famille qui ne peuvent se payer un dîner, dit Mrs. Cadwallader. Ah, ici elle se retourna au bruit de la porte qui s'ouvrit, voici M. Brooke. Je sentais bien tout à l'heure qu'il nous manquait quelqu'un. C'était vous. Vous venez voir ce singulier enterrement, cela va sans dire. Non, je suis venu pour M. Casaubon. Je viens voir comment il va, vous savez. Et puis j'apporte une petite nouvelle. Une petite nouvelle, ma chère, continua M. Brooke, en faisant des signes de tête à Dorothée. Je suis entré dans la bibliothèque, et j'ai vu Casaubon penché sur ses livres. Je lui ai dit que cela ne valait rien. Cela n'ira jamais bien comme ça, vous savez, lui ai-je dit. Pensez à votre femme, Casaubon. Et il m'a promis de ne pas tarder à monter. Je ne lui ai pas dit ma nouvelle, je l'ai seulement pressé de monter nous retrouver. « Ah, les voilà qui sortent de l'église !» s'écria Mrs. Cadwallader. « Grand Dieu, quel mélange bizarre de gens de toute espèce !»« Monsieur Lydgate est là comme médecin, je suppose. Mais voici une femme qui a réellement bonne façon. Et ce jeune homme blond doit être son fils. Qui sont-ils, Sir James, savez-vous ? Je vois Vinci, le maire de Middlemarch. C'est probablement sa femme avec son fils, dit Sir James, interrogeant du regard M. Brooke, qui fit un signe d'assentiment et ajouta « Oui, une excellente famille. C'est un bon diable que Vinci. Il fait honneur à la classe des manufacturiers. Vous l'avez vu chez moi, vous savez. Ah oui, un membre de votre comité occulte, » dit Mrs. Cadwallader d'un air provoquant. « Chasseur aussi, » dit Sir James, du ton dédaigneux d'un vrai chasseur de renards. Un de ces hommes qui vivent du travail des pauvres tisserands de Tipton et de Freshit. C'est cela qui fait reluire sa famille de tant de fraîcheur et d'éclat, dit Mrs. Cadwallader. Ces gens noirs, avec la figure rouge là-bas, font un fameux contraste avec eux. Bon Dieu, ont-ils l'air d'une rangée de cruches? Mais regardez donc Humphrey. On le prendrait pour un affreux archange, planant au-dessus de tous dans son surplis blanc. C'est pourtant une chose solennelle qu'un enterrement, fit observer M. Brooke, si vous le considérez sous ce point de vue-là, vous savez. « Mais, précisément, je ne le considère pas à ce point de vue-là. Je ne puis revêtir ma solennité à tout propos. Sans cela, elle serait bientôt en loques. Il était bien temps que ce vieux mourût, et aucun de ces gens-là n'en est fâché. « Quelle tristesse !» dit Dorothée. « Cet enterrement me fait l'effet de la chose la plus lugubre que j'ai jamais vue. Cela jette comme un voile noir sur cette matinée. C'est une idée que je ne puis supporter, de mourir sans laisser d'affection derrière soi. » Elle allait continuer, mais elle vit son mari qui entrait et qui alla s'asseoir derrière eux au fond de la pièce. Ce n'était pas toujours un heureux effet que produisait sa présence pour Dorothée. Elle sentait qu'en dedans de lui-même, il trouvait souvent à reprendre ce qu'elle disait. « Positivement !» s'écria Mrs. Cadwallader. « Voici une nouvelle figure qui surgit derrière ce gros homme, et plus étrange qu'aucune des autres. Une petite tête rouge et des yeux saillants, une espèce de figure de grenouille. Regardez, il doit être d'un autre sang. » « Voyons, » dit Celia, dont la curiosité s'éveilla, en se penchant par-dessus la tête de Mrs. Cadwallader qui était devant elle. « Oh, quelle étrange figure !» Puis, passant tout d'un coup à une expression de surprise dans notre genre, « Comment, Dodo, vous ne m'aviez pas dit que M. Ladislas fût de retour ?» Dorothée ressentit comme une secousse d'alarme. Tout le monde remarqua sa pâleur soudaine lorsqu'elle leva précipitamment les yeux sur son oncle pendant que M. Casaubon la regardait. « Il est venu avec moi, vous savez. Il est mon hôte. Il fait ménage avec moi à la grange, » dit M. Brooke, de son ton le plus aisé, en faisant de petits signes à Dorothée, comme si cette nouvelle était précisément la surprise à laquelle elle dut s'attendre. « Et nous avons apporté le tableau sur la voiture. Je savais que vous seriez content de la surprise, Casaubon. Vous êtes là comme vivant dans la personne de Thomas d'Aquin. On ne pouvait trouver mieux. Et vous entendrez le jeune Ladislas en parler. Il parle extraordinairement bien. Il indique ceci et cela. Il s'entend à l'art et à tout ce qui s'y rapporte. Il est éminemment sociable, vous savez. Il vous suit dans toutes les voies. C'est ce qui m'a manqué pendant si longtemps. » M. Casaubon s'inclina avec une politesse froide, imposant le silence à son irritation. Il se rappelait la lettre de Will, tout aussi bien que Dorothée. Il s'était aperçu qu'elle ne se trouvait pas dans le paquet des lettres mises de côté qu'on lui avait donné lors de sa guérison. Et, secrètement persuadé que Dorothée avait fait dire à Will de ne pas venir à Lowick, il avait mis un sentiment de fierté à ne plus faire allusion à ce sujet. Il supposait maintenant qu'elle avait prié son oncle d'inviter Will à la grange, et elle-même sentait qu'il était impossible d'entrer pour le moment dans aucune explication. Les yeux de Mrs. Cadwallader, détournés du cimetière, avaient observé une grande partie de cette scène muette qui ne lui était pas, malheureusement, aussi intelligible qu'elle l'eût souhaité, et elle ne put réprimer cette question « Qui est M. Ladislav ?» « Un jeune parent de M. Casaubon, » dit vivement James. La bonté de sa nature lui donnait souvent, pour venir en aide aux autres, de la promptitude d'esprit et une heureuse clairvoyance. Et il avait deviné, au regard que Dorothée avait jeté à son mari, qu'il y avait quelque anxiété dans son âme. « Un charmant jeune homme. Casaubon a tout fait pour lui, » expliqua M. Brooke. « Il vous paye de retour pour toutes les dépenses que vous avez faites pour lui, Casaubon. » continua-t-il en lui adressant de petits signes d'encouragement. « J'espère qu'il restera longtemps avec moi, et que nous ferons quelque chose de mes documents. J'ai une foule d'idées et de projets, vous savez, et je vois bien que c'est l'homme qu'il faut pour leur donner corps. Il a toujours présente les citations justes, « Omne tulit punctum », etc. Il sait faire quelque chose de tous les sujets. Je l'ai invité il y a quelque temps, quand vous étiez malade, Casaubon. « Dorothée m'a dit que vous ne pouviez recevoir personne chez vous, vous savez. Elle m'a prié d'écrire. » La pauvre Dorothée sentait que chaque phrase de son oncle avait, pour M. Casaubon, à peu près l'agrément d'un grain de sable dans l'œil. Expliquer en ce moment qu'elle n'avait nullement souhaité de voir son oncle inviter Ladislav eût été absolument déplacé. Il lui était impossible de se rendre compte des raisons de l'aversion de son mari pour la présence de Will, aversion dont la scène de la bibliothèque avait imprimé en elle le souvenir pénible. Mais elle sentait l'inconvenance qu'il y aurait à en donner, par un mot, le moindre soupçon aux autres. M. Casaubon non plus n'avait pas songé sans doute à démêler ses motifs. Son irritation cherchait plutôt, comme chez nous tous, à se justifier qu'à analyser. Mais il tenait à en réprimer toutes les manifestations extérieures. Et Dorothée, seule, put distinguer tout ce qui se passa sur le visage de son mari, avant que, s'inclinant avec plus de dignité encore que de coutume, il prononça de sa voix la plus monotone « Vous êtes extrêmement hospitalier, mon cher monsieur, et je vous ai une grande obligation pour l'hospitalité que vous voulez bien exercer envers un parent à moi. » La cérémonie était finie et le cimetière se vidait. « À présent, vous pouvez le voir, Mrs. Cadwallader, » dit Celia. « Il ressemble d'une manière frappante à une miniature de la tante de M. Casaubon qui se trouve dans le boudoir de Dorothée, tout à fait jolie. « Un charmant rejeton, » dit Mrs. Cadwallader sèchement. « À quoi se destine votre neveu, M. Casaubon ?»«
Pardonnez-moi, il n'est pas mon neveu, il est mon cousin. »
« Eh bien, vous savez, » interrompit M. Brooke, « il essaie ses ailes. » Il a tout ce qu'il faut à un jeune homme pour s'élever dans le monde. Je serais heureux de lui en fournir l'occasion. Il ferait vraiment un bon secrétaire, comme Hobbes, Milton, Swift, ce genre d'homme-là. Je comprends, dit Mrs. Cadwallader, un homme qui sait composer des harangues. Je vais vous le chercher à présent, Monsieur Casaubon, dit M. Brooke. Il ne voulait pas venir avant que je l'eusse annoncé, et nous descendrons voir le tableau. Vous êtes là tout vif. Un penseur à l'air à la fois profond et subtil, l'index posé sur une page, tandis que Saint Bonaventure ou quelque autre, gras plutôt, et florissant, lève les yeux vers la Trinité. Tout y est symbolique, vous savez, le plus haut style de l'art. J'aime cela jusqu'à un certain point, mais pas poussé trop loin. C'est passablement énervant de s'y maintenir, vous savez. Mais sur cette toile, vous êtes comme chez vous, Casaubon. Et puis votre peintre a un bon coup de pinceau, solidité, transparence, etc. J'ai beaucoup étudié cela pendant un temps, mais je vais aller chercher Ladislav. Chapitre 2. Quand les animaux entrèrent dans l'arche par paires, on peut s'imaginer que les espèces les plus rapprochées se regardèrent d'assez mauvais œil, en songeant que, sur une unique provision de fourrage, cela faisait vraiment trop de corps à nourrir. Des réflexions du même genre s'imposèrent aux carnivores chrétiens qui formait le cortège mortuaire de Pierre Featherstone, guettant tous la même provision limitée dont chacun espérait la plus grosse part. Les plus proches parents par le sang et les parents par alliance formaient déjà un nombre considérable qui, multiplié par les possibilités, offrait un vaste champ aux conjectures jalouses et aux espérances passionnées. La jalousie envers les Vinci avait créé une confraternité d'hostilité entre toutes les personnes du sang de Featherstone. De sorte qu'en l'absence de tout indice sérieux établissant pour l'un d'entre eux plus de chances que pour les autres, une crainte, celle de voir cette longue perche de Fred Vinci héritée de la propriété, dominait tout. Elle laissait place pourtant à des sentiments plus complexes, à des méfiances plus vagues, comme celle qu'on nourrissait à l'égard de Mary Garth. Salomon trouvait que Jonas ne méritait absolument rien. Jane, la sœur aînée, maintenait que les enfants de Marthe ne devaient pas s'attendre à recevoir autant que les jeunes Wall. Les plus proches parents étaient encore bien mieux convaincus de l'absurdité des espérances conçues par les cousins et petits-cousins, et employaient leur science arithmétique à calculer le gros chiffre auquel pourrait bien se monter l'ensemble désagréable des petits legs. Deux vieux cousins de Brassing, un petit cousin Mercier et Middlemarch, M. Trumbull lui-même, venu pour assister à la lecture du testament, n'était pas sans nourrir d'agréables illusions. Mais dans la matinée, toutes les conjectures se trouvèrent troublées dans leur cours naturel par la présence d'un étrange personnage en deuil, tombé au milieu de tous comme de la lune. C'était un homme de 30 à 32 ans, à la figure duquel les yeux proéminents, la bouche tombante aux lèvres minces, les cheveux lisses rejetés en arrière et le front fuyant imprimaient un caractère absolument batracien, qui avait frappé Mrs. Cadwallader. C'était évidemment un nouveau légataire. Pourquoi eût-il été convié sans cela à faire partie du cortège mortuaire? Il y avait de ce côté de nouvelles possibilités, éveillant de nouvelles incertitudes et coupant court à toutes les réflexions faites dans les voitures de deuil. Personne jusque-là n'avait vu cet étranger suspect, sauf Mary Garth, et tout ce qu'elle en savait, c'est qu'il était venu deux fois à Stone Court, à l'époque où M. Featherstone descendait encore au rez-de-chaussée, et qu'il était resté seul avec lui pendant plusieurs heures. Elle avait eu l'occasion de le dire à son père,
et peut-être les yeux de Caleb étaient-ils les seuls, avec ceux du notaire, qui regardassent l'étranger avec plus de curiosité que de dégoût et de soupçon. Caleb Garth, ayant peu d'espérance et encore moins de cupidité, ne s'intéressait guère à la vérification de ses conjectures. Le calme avec lequel il se frottait le menton, dans un demi-sourire, faisait un contraste frappant avec l'alarme et le mépris visibles sur toutes les figures, au moment où cet individu en deuil, dont le nom était Rigg, entra dans le salon et vint s'asseoir près de la porte pour faire partie de l'auditoire pendant la lecture du testament. M. Salomon et M. Jonas venaient de monter avec le notaire pour chercher le testament, et Mrs. Wall, voyant deux sièges vacants entre elle et M. Borthrop Tambool, fut tentée de se rapprocher de cette importante autorité qui jouait en ce moment avec les cachets de sa lourde chaîne de montre, afin de ne laisser voir ni étonnement ni surprise, ce qui eût été compromettant pour un homme de sa force. « Je présume que vous connaissez tout ce qu'a fait mon pauvre frère, M. Trumbull, » dit Mrs. Wall de sa voix mielleuse la plus basse, tout en tournant vers l'oreille de M. Trumbull son chapeau couvert de crêpe. « Ma chère dame, tout ce qui m'a été dit en confidence, » répliqua le commissaire, faisant de sa main un écran pour entourer ce secret de tout le mystère possible. Ceux qui se tiennent pour assurés de leur bonne fortune peuvent encore être déçus, continua Mrs. Wall, trouvant quelque soulagement dans cette communication. Les espérances sont souvent trompeuses, ajouta M. Trumbull, toujours en confidence. Oh, soupira Mrs. Wall en regardant du côté de Vincey et en regagnant sa place à côté de sa sœur Marthe. C'est étrange comme ce pauvre Pierre était renfermé, murmura-t-elle. Personne de nous ne sait ce qui pesait peut-être sur son âme. J'espère seulement que sa vie n'a pas été plus mauvaise que nous ne le pensons, Marthe. Je n'ai jamais été avide, Jane, répliqua la pauvre Mrs. Cranch, obèse et asthmatique. Mais j'ai 6 enfants, et j'en ai enterré 3, et mon mariage ne m'a apporté aucune fortune. L'aîné, qui est assis là, n'a que 19 ans. Aussi, je vous laisse à penser. Et les fonds sont toujours maigres, et les terres des plus mauvaises. Mais si jamais j'ai mendié et prié, c'est au Dieu du ciel que je me suis adressé. Pourtant, là où il y a un frère célibataire et un autre sans enfant après un second mariage, on peut bien penser. M. Vincey, tout en observant le visage impassible de M. Rigg, jouait avec sa tabatière. Je ne serais pas étonné que Featherstone eût agi sous l'empire de meilleurs sentiments que ceux que nous lui prêtons tous, observa-t-il à l'oreille de sa femme. Cet enterrement prouve qu'il a pensé à tout le monde. Cela est d'un bon effet, qu'un homme désire d'être accompagné par tous ses amis et qu'il ne rougisse pas des plus humbles. Je n'en serais que plus heureux s'il avait laissé beaucoup de petits legs. Ces legs sont souvent d'une utilité incomparable aux gens qui vivent à l'étroit. Rien ne laisse à désirer, dit Mrs. Vincey avec satisfaction, le crêpe, la soie et tout le reste. Je suis fâché de dire que Fred, pendant ce temps, luttait non sans peine contre une persistante envie de rire. Fred avait entendu Jonas suggérer l'idée de quelque enfant illégitime, et au moment où le ridicule de cette idée l'amusait, la figure de l'étranger, qui se trouvait par hasard en face de lui, le frappa d'une façon par trop comique. Mary, s'apercevant de sa détresse au tremblement de ses lèvres, et à certaines petites toux bien connues, vint habilement à son aide en le priant de changer de place avec elle, de sorte qu'il se trouva à l'écart dans un coin plus obscur. Fred se sentait aussi bien disposé que possible envers tout le monde, Rigg compris. Il éprouvait quelque attendrissement pour tous ces gens moins fortunés qu'il ne croyait l'être lui-même, et il n'aurait voulu pour rien au monde se conduire d'une façon inconvenante. Mais le spectacle était si drôle qu'il était singulièrement difficile de ne pas rire. Cependant, l'entrée du notaire et des 2 frères attira l'attention de chacun. Le notaire était M. Standish. Il était arrivé le matin même à Stone Court, croyant parfaitement savoir qui serait satisfait et qui désappointé avant la fin du jour. Le testament qu'il s'attendait à lire était le dernier des 3 qu'il avait dressé pour M. Featherstone. Le vieux Featherstone avait souvent pensé, alors que du fond de son fauteuil il regardait le feu en silence, que quelque jour Standish serait bien étonné. Il est vrai que s'il avait fait ce qu'il voulait faire au dernier moment, et brûler le dernier testament dressé par un autre notaire, il n'aurait pas atteint cette satisfaction posthume qu'il avait pris plaisir à ruminer. Mais M. Standish n'éprouva que de la surprise et aucune mauvaise humeur. Il se réjouit, au contraire, de la petite pointe de curiosité qu'éveilla dans son esprit la découverte d'un nouveau testament, ajouté à la perspective de l'ébahissement qu'il allait causer parmi tous les Featherstone. Quant à Salomon et à Jonas, ils en étaient arrivés au dernier degré de l'attente. Il leur semblait que le premier testament aurait quand même une certaine solidité, et qu'il pourrait y avoir entre les premières et les dernières volontés du pauvre Pierre une confusion assez grande pour amener d'interminables procès avant que personne n'en arrivât à ses fins. Personne peut-être n'éprouvait en ce moment une plus violente agitation que Mary Garth. C'était elle, en effet, qui avait assuré par sa conduite la validité de ce second testament qui pourrait avoir des effets gigantesques sur la destinée des gens ici présents. Nulle autre âme que la sienne ne savait ce qui s'était passé dans cette dernière nuit. « Le testament que je tiens en main, commença M. Standish, qui, assis à une table au milieu de la chambre, prenait son temps pour tout, a été dressé par moi et dicté par notre défunt ami le 9 août 1825. Mais j'ai découvert qu'il existait un testament postérieur, jusque-là ignoré de moi, portant la date du 20 juin 1826, rédigé à peine un an plus tard que le précédent. Et il y a plus loin, à ce que je vois, M. Standish parcourait attentivement l'acte avec ses lunettes, un codicille à ce dernier testament, portant la date du 1er mars 1828. « Seigneur, Seigneur !» gémit la sœur Marthe sous cette accumulation de dates. « Je commencerai par lire le premier testament, » poursuivit M. Standish. Telle était sans doute l'intention du défunt, puisqu'il n'a pas détruit ce document. Ce préambule parut un peu long. Salomon et quelques autres de l'assistance secouaient la tête et regardaient le plancher, tous les yeux évitant d'en rencontrer d'autres et prenant pour point de mire les taches de la nappe ou le crâne chauve de M. Standish. Ceux de Mary faisaient seule exception. Pendant que tous ces gens s'efforçaient de ne rien regarder, elles pouvaient en toute sécurité les regarder eux-mêmes, et au prononcé du premier « je donne et lègue », elle put voir une altération dans la couleur et l'expression de tous les visages, comme si quelques sourdes vibrations les traversaient, excepté pourtant celui de M. Rigg. Il était assis à sa place dans un calme inaltérable, et le fait est que l'Assemblée, préoccupée de problèmes plus importants et de la difficulté de distinguer les legs qui pourraient être ou ne pas être révoqués, avait cessé de songer à lui. Fred rougit, et M. Vincey eut plus que jamais besoin de sa tabatière. On fit d'abord lecture des petits legs, mais la pensée d'un autre testament, auquel le pauvre Pierre avait sans doute mieux réfléchi, ne suffit pas pour apaiser le dégoût et l'indignation croissante de l'Assemblée. On aime à être bien traité en tout temps, passé, présent et à venir. Et voilà que Featherstone avait été capable, 5 ans auparavant, de ne laisser que 200 livres à chacun de ses propres frères, sœurs et nièces. Point de mention des Garth. Mrs. Vincey et Rosemonde devaient chacune en avoir 100. À M. Trumbull revenait la canne à pommes d'or, plus 50 livres. Les autres cousins germains et petits cousins présents devaient avoir chacun une part d'héritage aussi belle, autant dire rien qu'un tel legs pour un homme, comme le fit observer l'un d'eux. Venait enfin un plus grand nombre de ces petites dotations injurieuses en faveur de personnes absentes, relations de famille problématiques et, comme tout le faisait craindre, de basse extraction. Tout rapidement calculé, la somme léguée se montait à 3 000 livres. Où Pierre voulait-il donc caler le reste de sa fortune et ses propriétés? Qu'est-ce qui était révoqué et qu'est-ce qui ne l'était pas? La révocation serait-elle pour le mieux ou pour le pire? Les hommes furent assez forts pour se contenir et garder leur calme au milieu de cette incertitude confuse, les uns laissant pendre leur lèvre inférieure, les autres la relevant en cœur selon l'habitude de leurs muscles. Mais Jane et Marthe faiblirent sous ce conflit d'émotions et se mirent à pleurer. La pauvre Mrs. Cranch, émue d'une part par la joie de recevoir n'importe quoi sans avoir à travailler pour le gagner, d'autre part, ému aussi par la compréhension vague que son lot était chétif. Ce qui dominait, au contraire, chez Mrs. Wall, c'était le sentiment d'être une propre sœur et de recevoir très peu de choses, tandis que quelque autre devait recevoir beaucoup. L'idée dominante maintenant, c'était que ce « beaucoup » allait échoir à Fred Vinci. Mais les Vinci furent surpris à leur tour lorsque 10 000 livres en placement spécifié furent déclarés leur être légués. Les terres allaient-elles suivre? Fred se mordit les lèvres. Il était difficile de ne pas sourire, et Mrs. Vinci se sentait elle-même la plus heureuse des femmes. La possibilité d'une révocation disparaissait devant cette éblouissante vision. Il restait encore d'autres valeurs outre les terres, mais le tout était légué à une seule et même personne, et cette personne était, ô possibilité, ô espérance fondée sur la faveur d'un vieux gentleman renfermé, ô vocatif sans fin qui n'arriverait jamais à une expression assez forte pour qualifier la folie humaine. Ce légataire universel, c'était Joshua Rigg, institué en même temps seul exécuteur testamentaire et devant prendre dès lors le nom de Featherstone. Un long frémissement, semblable à un frisson, fit le tour de la chambre, et chacun regarda M. Rigg, qui ne paraissait éprouver aucune surprise. « Une disposition testamentaire des plus étranges !» s'écria M. Trumbull, préférant renoncer pour cette fois à sa prétention d'avoir tout connu d'avance. « Mais il y a un second testament, un autre document. Nous ne connaissons pas encore les dernières volontés du défunt. » Mary Garth sentait que ce qu'on allait entendre maintenant, ce n'était pas les dernières volontés. Le second testament révoquait toutes les donations du premier, sauf les legs aux personnages intimes. Il faisait donation à Joshua Rigg de toutes les terres situées dans la paroisse de Lowick, ainsi que de tous les meubles et effets de la maison. Le reste de la fortune devait servir à élever et à doter des hospices pour les vieillards, qui s'appelleraient Hospice Featherstone, et qu'on bâtirait sur un terrain voisin de Middlemarch, déjà acheté à cet effet par le testateur, ce dernier désirant, au terme de ce document, se mettre en règle avec le Dieu Tout-Puissant. Pas une des personnes présentes n'héritait d'un centime. Mais M. Trumbull recevait la canne à pommes d'or. Il fallut quelque temps à l'assemblée pour recouvrer la parole. Mary n'avait pas le courage de regarder Fred. M. Vinci fut le premier à parler, après avoir énergiquement usé de sa tabatière, et il s'exprima avec une vive indignation. « Le testament le plus inconcevable que j'ai jamais vu. Je dirais volontiers qu'il n'était pas dans son bon sens quand il l'a fait. Je dirais volontiers que ce dernier testament est nul. Pas vrai, Standish ?»« Notre ami défunt savait toujours ce qu'il faisait, il me semble, » dit M. Standish. « Tout est parfaitement dans les règles. » Voici une lettre de Clemens de Brassing, attachée au testament. C'est lui qui l'a adressée, un procureur des plus respectables. Je n'ai jamais remarqué chez feu M. Featherstone aucune aliénation d'esprit ni d'intelligence, dit M. Borthrop Trumbull. Mais c'est ce que j'appelle un testament excentrique. J'ai toujours volontiers rendu service à ce vieillard, et il m'en avait témoigné assez clairement son obligation pour que je puisse en trouver la preuve dans son testament. À titre de reconnaissance, la canne à pommes d'or n'est qu'une ironie. Mais je suis heureusement au-dessus de ces considérations mercenaires. Je ne puis rien voir ici de très surprenant, dit Caleb Garth. On aurait eu plus de raison de s'étonner si le testament avait ressemblé à celui d'un homme franc et droit dans sa conduite. Pour ma part, je voudrais qu'on ne fît pas de testament. C'est là, par Dieu, un sentiment étrange de la part d'un chrétien, dit le notaire. Je serais curieux de savoir comment vous soutiendriez cette opinion-là, Garth. Ici, M. Jonas Featherstone se fit entendre à son tour. Eh bien, il a toujours été un fier hypocrite, mon frère Pierre. Mais ceci dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Si je l'avais su, une voiture à 6 chevaux n'aurait pu me faire démarrer de Brassing pour m'amener ici. Je mettrai demain un chapeau blanc et un habit gris américain. Seigneur, Seigneur, pleura Mrs. Cranch. Et nous avons fait la dépense du voyage. Et ce pauvre garçon est resté là si longtemps sans travailler. C'est la première fois que j'entends dire que mon frère Pierre fut si désireux de satisfaire le Dieu Tout-Puissant. Mais dussé-je être frappé de paralysie, il faut que je le dise, C'est cruel, je ne puis penser autrement.
Ça ne lui profitera pas là où il est à présent. Voilà ma conviction, conclut Salomon avec une amertume des plus sincères. Pierre a été un mauvais homme de son vivant, et ses hospices n'y changeront rien, puisqu'il a eu l'impudence de se montrer tel encore au dernier acte de sa vie. Il a toujours vécu entouré de sa propre et légitime famille, frères et sœurs, neveux et nièces, et il s'est assis dans l'église à côté d'eux chaque fois qu'il jugeait bon d'y venir, dit Mrs. Wall. Et il aurait pu laisser sa respectable fortune à ceux qui ne s'étaient jamais laissés aller à l'extravagance et à la légèreté, et qui étaient en état de conserver soigneusement chaque penny et de le faire fructifier. Et moi, quelle peine n'ai-je pas prise maintes et maintes fois pour venir ici et me montrer bonne sœur, et lui qui avait tout le temps dans l'esprit des choses qui vous donnent la chair de poule. Mais si le Tout-Puissant l'a permis, c'est qu'il a l'intention de l'en punir. Mon frère Salomon, je vais m'en retourner, si vous m'offrez une place dans votre voiture.
Je n'ai pas le désir de remettre jamais les pieds en ces lieux, dit Salomon. J'ai des terres à moi et des biens à moi, que j'aurai à léguer à mon tour.
C'est une triste histoire que la manière dont va la chance en ce monde, dit Jonas. À quoi cela sert-il jamais d'avoir un brin d'esprit dans le corps?
Autant vaut être un chien dans sa niche.
Que cela du moins serve de leçon à ceux qui restent. C'est assez d'un testament de fou dans une famille.
Il y a plus d'une manière d'être fou, dit Salomon. Je ne laisserai pas mon argent pour qu'on le jette dans un cloaque, et je ne le laisserai pas non plus aux petits nègres d'Afrique. J'aime les Featherstone qui sont nés Featherstone, et non les Featherstone qui le sont devenus parce qu'on leur a accolé ce nom-là.
Le frère Jonas se sentait capable de saillies beaucoup plus piquantes encore. Mais il réfléchit qu'il était inutile d'offenser le nouveau propriétaire de Stone Court avant d'être bien sûr qu'il n'avait aucune intention d'hospitalité à l'égard des hommes d'esprit dont il allait porter le nom.
Monsieur Joshua Rigg, en effet, paraissait se soucier fort peu de toutes ces insinuations. On le vit s'approcher résolument de M. Standish et aborder avec le plus grand sang-froid les questions d'affaires. Son ramage était haut, son langage ordinaire et grossier. Fred, qu'il ne faisait plus rire, le regardait comme le plus affreux monstre de la terre. Mais Fred se sentait assez mal à l'aise. Le mercier de Middlemarch attendait une occasion d'engager la conversation avec M. Rigg. Qui sait pour combien de paires de jambes le nouveau propriétaire avait peut-être des bas à commander. Et il était plus sûr de compter sur ces profits-là que sur les héritages de petits cousins éloignés. M. Vincey, après sa première explosion, était demeuré fièrement silencieux, bien que trop préoccupé de réflexions pénibles pour songer à se retirer. Mais, voyant sa femme qui pleurait silencieusement auprès de Fred, en tenant la main de ce fils bien-aimé, M. Vincey se leva aussitôt, et s'approchant d'elle, il lui dit à voix basse, tournant le dos à la compagnie, « Ne vous laissez pas aller ainsi, Lucie. Ne vous rendez pas ridicule devant ces gens-là, ma chère. » Puis il ajouta de sa voix forte, « Allez demander notre phaéton, Fred. Je n'ai pas de temps à perdre. » Mary Garth s'était préparée pendant ce temps à rentrer à la maison avec son père. Elle rencontra Fred dans le vestibule, et pour la première fois, elle eut le courage de le regarder. Il avait cette pâleur maladive qu'une forte émotion communique parfois à de jeunes visages, et sa main était froide quand elle la lui serra. Mary aussi était agitée. Elle sentait que, fatalement, et malgré elle, elle était peut-être la cause d'un grand changement dans l'avenir de Fred. « Adieu, lui dit-elle avec une affectueuse tristesse. Ayez du courage, Fred. Je crois sincèrement que vous valez mieux sans cet argent. Quel bien faisait-il à M. Featherstone ?»«
Tout cela est bel et bien, repartit Fred avec humeur. Et que reste-t-il à faire à un pauvre diable? Il faut que je me fasse pasteur à présent. » Il savait que cela vexerait Mary. Il faudrait bien qu'elle lui indiquât maintenant autre chose à faire.
« Et j'espérais pouvoir rembourser votre père tout de suite et arranger tout cela. Et il ne vous a pas même laissé 100 livres à vous. Qu'allez-vous faire à présent, Mary ?»«
Je chercherai une autre position, et je me hâterai d'en trouver une. Mon père a une assez grosse charge à entretenir tous les autres, sans moi. Adieu. »
Au bout de peu de temps, Stone Court se trouva débarrassé de la race des Featherstone et de ses visiteurs accoutumés d'autrefois. Un nouvel étranger allait donc s'établir dans le voisinage de Middlemarch, mais nul n'y était assez bon prophète pour avoir quelque pressentiment de ce qui pourrait arriver à la suite de M. Joshua Rigg.